Nous vous proposons maintenant une interview du docteur Jacques Labesca.
Alors, bonjour, bonjour Michael Pantaléon, bonjour.
Bonjour Jacques.
Alors, nous avons invité Michael parce que d'abord, il a un joli nom. Hein, un joli nom, Pantaléon, c'est un très joli nom et au moins pas courant et qui est, je crois, d'ailleurs un des membres de la Commedia dell'Arte. Mais c'est pas pour ça que nous l'avons invité. Nous avons inauguré aujourd'hui du moins, une nouvelle rubrique, Changer de vie. Et oui, parce que s'il y en a un qui a changé de vie, c'est bien Michael. Parce que Michael, il était un grand pâtissier.
J'étais pâtissier avec... 10 ans d'expérience dans divers restaurants, étoilés ou non, et j'ai appris à aimer le produit, la simplicité de cela, et être à la recherche de goût. Donc voilà ce qui m'a fait aussi un peu dévier dans ma vie professionnelle, c'était retrouver une essence même du goût du produit, et plus particulièrement les tomates. Car... 90% des tomates en France sont cultivées hors sol. Et cela m'attriste plus pour le goût. Et en une génération, on a perdu tout cela et tout ce savoir-faire et ces petits trucs pour que la tomate soit importante dans nos conserves. Et c'est ce qui est cela chez nous. Et j'ai beaucoup de plaisir à cultiver ce fruit sans irrigation comme mon grand-père le faisait. Donc il y a des années à tomates, il y a des années à courgettes, mais année après année, la génétique de nos plantes s'améliore à cela. Mais il n'y a pas de secret, les grosses tomates cœur de bœuf sont plus dures à cultiver sans eau. Mais suivant les années, on y arrive. Il y a 2 ans, qui étaient plus favorables, on y est très bien arrivé. On est arrivé à faire 30 variétés de tomates et diverses. Cette année qui était très sèche... Les petites pièces, telles que les tomates cerises orange, ont incroyablement bien marché et vraiment avaient un goût exceptionnel. Mais pour tester cela, vraiment, on a acheté un réfractomètre. Donc ce réfractomètre, c'est en gros un gros thermomètre à sucre. Et c'était pour dire, bon, ok, il y a du sucre dans nos tomates, mais on sait que le goût influe sur les vitamines. On sait que la vitamine C, voilà, quand on a des ajouts, c'est un petit goût en plus. Mais on voulait vraiment voir... On peut pas donner encore de recul parce que c'est que cette première année qu'on a pris cet appareil en main, mais c'est pour faire un parallèle avec mon ancien métier où on s'en servait pour faire des confitures régulières.
Alors, vous avez compris
que 50% de sucre.
Vous avez compris que Michael est un passionné. D'ailleurs, il nous a même pas laissé, parce qu'il est trop modeste aussi, nous dire qu'il était un grand pâtissier, y compris dans les îles. Vous étiez même un pâtissier lointain. Hein. Vous travailliez dans des... l'océan Indien, vous étiez, non? Vous étiez un petit peu expatrié.
Oui, pendant 5 années, nous avons vécu avec ma compagne dans les îles du Nord, à Saint-Barthélemy, où il y avait... très beaux restaurants et aussi de nouveaux produits inconnus pour nous. Et c'est ça qui était aussi intéressant, de travailler le produit local et d'avoir la sagesse de l'économie de l'eau.
Alors voilà, cette sagesse, vous avez voulu la développer dans votre pays natal, j'allais dire. Vous êtes revenu en France et là, vous avez changé totalement de vie. Vous n'êtes plus pâtissier.
Non. Après, la vie ne sait pas... où elle nous mènera, j'ai peut-être un rêve d'être paysan pâtissier en plantant énormément d'arbres, mais ça c'est peut-être un peu utopique, mais pour le moment, nous aimons les herbes, nous aimons revenir à... j'ai eu beaucoup d'intérêt pour l'herboristerie, et pour cela, il me semble que d'être entouré de plantes, ça nous aide beaucoup à les comprendre et à s'en inspirer sur les goûts et leurs bienfaits. Voilà, à titre personnel, j'étais déjà passionné puisqu'on arrivait à faire des infusions pour faire des sorbets, mais j'avais envie de plus et d'avoir des herbes qu'on ne proposait pas forcément par des fournisseurs classiques, donc il fallait que j'ai les plantes au sein de mon jardin.
En fait, vous n'avez pas changé de vie, vous avez évolué dans une même dynamique.
Exactement, ceci m'aide à valoriser les produits. Un exemple tout bête, nous faisons du sucre de rose. Voilà, on a énormément de roses, on n'arrive pas forcément à les valoriser ou à en faire plaisir, mais simplement, avec l'expérience que j'avais en cuisine, on arrive à essayer à faire des produits divers et variés, beaucoup d'huile solaire, vraiment, même si pour le moment c'est vraiment un titre expérimental, mais c'est chouette. J'ai vraiment un plaisir énorme à faire mes propres tomates confites de mon jardin. Et plus qu'un plaisir, c'est vraiment un goût quoi, que je suis à la recherche.
Alors, Michael est à Morlane. Morlane est un village à côté de Pau, à quelques kilomètres de Pau, qui a d'ailleurs un très très beau château de Gaston Phébus. Et Michael, il fait pas que ça, il fait aussi gîte rural, mais dans l'originalité toujours, hein, parce que votre cabane, elle s'appelle une cabane dans les arbres tordus.
Exactement. C'est une cabane qui a été construite en bois local pour une souci de résilience et de mettre en valeur toutes nos scieries qui sont beaucoup perdues dues à diverses tempêtes il y a quelques décennies. Mais voilà, vraiment montrer le bois rouge naturel en France, c'est le merisier, c'est magnifique, c'est d'autres choses. Partager une passion avec des menuisiers quand ils vous vendent des planches et vous expliquer leurs caractéristiques techniques, excusez-moi, sont vraiment importantes. Par exemple, le châtaignier est imputrescible par nature et très léger. C'est des matériaux qu'on n'entend plus parler, il n'y a plus forcément de plantation, alors que avant ça nourrissait les hommes et il permettait d'en tirer aussi du bois de construction. Maintenant, il faut savoir que la petite fermette, bien souvent, ça vient d'Allemagne. Et c'est bien dommage qu'on a des bois bien plus résistants en France. Et on voulait vraiment mettre à cœur ceci au sein du bois, mais aussi sur une isolation nouvelle et un peu oublier la taille de lin.
Ah oui, alors là, voilà, il y a le bois, mais il y a aussi le lin. Et le lin, vous êtes peut-être en train de redécouvrir ou du moins de relancer une production de lin local, alors que le lin avait disparu pratiquement du Béarn et était resté un petit peu qu'en Normandie, presque.
Exactement. Le lin en Normandie, c'est un lin haut, on peut dire cela. C'est un lin spécialisé pour le fibre textile. Et ici, c'était plutôt un lin oléagineux pour les hommes, les bêtes, créer l'huile de lin. C'est un fongicide naturel et une paille non valorisée, laissée au champ. Et nous voulions une isolation économique et très performante. Donc on s'est intéressé vraiment à ce matériau. On l'a éprouvé en construisant une serre. Et même au contact de la terre, ceci se renforce avec le temps. C'est une fibre qui réagit un peu comme le bois. Donc c'est vraiment un matériau qui est incroyable et j'en suis fasciné et qui a multiples et diverses propriétés, soit dans la gamme textile, mais aussi dans la construction et l'écologement.
Et alors, est-ce que vous arrivez à entraîner les agriculteurs à se remettre, plutôt qu'au maïs classique, à se remettre un peu au lin ?
À titre personnel, je ne peux pas dire ça que j'ai une influence, mais si des gens n'entendent parler que... Il y a une maison qui est performante en lin. Nous avons entendu parler d'un bureau d'études. Nous les avons contactés. On vous tiendra peut-être au courant plus tard et vous donnera des résultats sur la résilience. Et on entend bientôt parler du RT 2021 et peut-être que ce serait le RT 2022 ou 25 qui serait bien plus écologique qu'une laine de roche ou d'une laine de verre. Quand vous entendez des amis charpentiers qui vous disent qu'une laine de verre n'existe plus au bout de 6 à 8 ans sous les combles plein sud, ça fait peur. Alors que le lin se renforce. Donc à nous de dévier pour le meilleur et aider toujours nos agriculteurs à valoriser leur travail.
Alors il est déjà étonnant, hein, Michael. Il est déjà étonnant parce que il nous parle de lin, mais il y a eu encore une autre idée. Et là, j'avoue que ça m'a encore plus étonné, à savoir pourquoi pas nettoyer les océans avec la laine de nos moutons. Alors là, j'avoue que je suis resté assis. Nettoyer les océans avec la laine, bah, il m'a dit oui, c'est pas si étonnant que ça.
En fait, il faut voir la laine de brebis comme un fibre capillaire. Voilà, ça reste du calcium, simplement. Donc on ne crée pas de pollution pour combattre une future marée noire. On ne crée pas d'équipage spécialisé, des barrières en plastique pour endiguer les marées noires. Nous, juste ce qu'on propose, c'est déjà... déjà en premier temps peut-être d'être prêt et par la suite aussi d'endiguer la pollution qui peut sortir des ports. Et c'est simplement réutilisable. Pour que ce soit, la qualité technique, on peut le presser aux alentours de 8 fois. On s'est inspiré de cela par rapport aux cheveux. Il y a eu énormément d'études autour de cela. Et c'est autour d'un repas qu'on a eu cette idée d'avoir une éponge végétale avec des cheveux et faire un parallèle avec les brebis. Donc le cheveu marche très bien pour pomper les hydrocarbures, mais on a dit, ok, on va passer à la vitesse au-dessus, et pourquoi pas, avec nos 400 000 brebis dans le 64, être prêt à pomper des millilitres d'hectolitres d'hydrocarbures. Donc ce n'est pas une idée, hein, c'est vraiment déjà fait en Sardaigne. Donc les brebis sardes, déjà à l'entrée des ports, font cela, c'est vraiment une reprise d'idées oubliées, puisqu'elle a déjà été employée en 1978 pour le naufrage de l'Amoco Cadiz. Donc revenons à nos moutons pour un avenir meilleur.
C'est qu'à le dire. C'est qu'à le dire. Ben, je crois que Michael, on va le réinviter parce que je crois que c'est quelqu'un de passionnant et qui est passionné. Alors c'est pour ça d'ailleurs qu'il est passionnant. Et il n'est jamais à court d'idées. Hein, il n'est jamais à court d'idées. Et je pense que ben on va être amené à le réinviter bientôt. Alors si vous voulez le rencontrer, ben je crois qu'il fait gîte. Enfin quand on va pouvoir se déplacer, mais bon, j'espère que ça va venir quand même. Le gîte, un des gîtes, c'est la cabane aux arbres tordus. Je crois qu'on peut le trouver sur site et page Facebook, c'est ça?
Exactement.
Alors comment on vous trouve l'adresse?
Le cabane aux arbres tordus.com arrive très prochainement, est en construction, mais vous pouvez déjà nous contacter pour offrir des nuitées, pourquoi pas pour Noël, mais déjà juste pour voir qu'est-ce qu'on a fait avec notre bois local et la paille de lin, sur Cabane aux arbres tordus, sur Facebook et Instagram.
Eh bien voilà, merci beaucoup Michael, et puis à très bientôt.